Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre dernière chronique, nous avions laissé l'Italie au moment où le gouvernement était confié à Benito Mussolini, chef du parti national fasciste. À vrai dire, à ce moment-là, c'est-à-dire à l'automne 1922, il n'a pas de majorité parlementaire. Il est obligé de composer avec des forces libérales, nationalistes, voire même avec le Parti populaire, une force démocrate chrétienne, pour essayer de composer un gouvernement qu'il va donc diriger. Il obtient les pleins pouvoirs lors du débat du 16 novembre 1922, et surtout, un an plus tard, il va obtenir le vote de la loi Acerbo, du nom du sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, qui modifie la loi électorale. L'Italie passe d'un système proportionnel à un système largement majoritaire, puisque si une liste dépasse les 25% des voix, elle obtiendra 65% des sièges. C'est donc sur cette base que Mussolini demande au roi la dissolution de la Chambre des députés en janvier 1924 et que des élections sont organisées le 6 avril. Il obtient une très large majorité puisqu'il y a à peu près 60% des électeurs qui se sont déplacés, qui ont voté pour la liste dirigée par Mussolini. Mais il y a encore quelques éléments d'opposition, des socialistes, des populaires, une quinzaine de libéraux, quelques communistes. Mais indéniablement, il a désormais les mains assez libres pour imposer une politique. La machine fasciste va être néanmoins gênée par l'affaire Matteotti. Le 10 juin 1924, un député socialiste qui s'était fait connaître par des propos extrêmement hostiles au gouvernement en place, Giacomo Matteotti, est enlevé, assassiné, on retrouvera son corps le 16 août. Évidemment, immense scandale. Mussolini vacille à ce moment-là, mais il peut compter sur la fidélité du Parti national fasciste, sur la fidélité aussi de sa majorité parlementaire et le fait que le roi ne bouge pas et ne prend pas la parole pour condamner très fermement ce qui s'est passé. Résultat, à la fin de l'année, pressé par ce qu'on appelle les consuls de la milice, Mussolini décide clairement de franchir le pas. Et le 3 janvier 1925, devant les députés, il annonce clairement la volonté d'établir un régime dictatorial en Italie. C'est à ce moment-là que sont adoptés, en 1925 et en 1926, ce que les historiens ont appelé les lois fascistissimes, c'est-à-dire les lois extrêmement fascistes. Elles consistent à épurer la fonction publique, censurer la presse, supprimer l'élection des maires, mais ils sont remplacés par la nomination par le pouvoir de Podesta, et également, progressivement, supprimer les syndicats, les partis, et finalement, les derniers députés de l'opposition sont déchus de leurs fonctions en novembre 1926. À partir de ce moment-là, il y a clairement une dictature installée. Or, ce que je voudrais souligner, c'est que cette dictature a une vocation totalitaire, mais reste à définir ce que l'on appelle totalitarisme. Le totalitarisme est un système politique qui repose sur un parti unique, sur un culte exacerbé de la personnalité du chef politique, sur un culte de l'État, or, en Italie, l'État va être déifié, par le monopole des moyens de communication, par l'organisation d'un système de surveillance et de répression, par la volonté d'encadrer la société, par le parti ou des organisations liées au parti. Et puis enfin, et ce n'est pas le moindre élément, c'est la volonté de créer un homme nouveau, un Italien nouveau qui puisse assurer pour, si ce n'est les siècles des siècles, mais pour un long temps, eh bien, une pérennité à l'Italie fasciste. Ce système, je ne vais pas pouvoir le développer de manière trop précise, le temps manquant, mais je voudrais en particulier tout de même signaler l'encadrement de la société, parce que cela me semble être capital. D'abord, il faut encadrer la jeunesse. Celle-ci dépend de l'Opéra Nazionale Balilla, qui a été fondé en 1926, et de 4 ans jusqu'à 18 ans et plus, les jeunes Italiens et les jeunes Italiennes sont inscrits dans des regroupements qui vont d'ailleurs devenir obligatoires à partir de 1936. De 4 à 8 ans, il y a les fils de la Louve et les filles de la Louve, allusion à la Louve romaine. De 8 à 14 ans, les Balilla et les petites Italiennes. De 14 ans à 18 ans, les Avanguardisti et les jeunes Italiennes. Et enfin, après 18 ans, les jeunes fascistes et les jeunes filles fascistes. Il s'agit effectivement de former une jeunesse, de lui inculquer la doctrine fasciste, mais on peut s'interroger, c'est vrai, sur une façade qui est extrêmement imposante, mais peut-être que nombre d'Italiens ont pu inscrire leurs enfants avant 1936, puisque après c'est devenu obligatoire, inscrire donc dans les organisations fascistes parce que cela pouvait, donner des avantages, permettre à tel ou tel d'avancer grâce au parti. Et donc, véritablement, il y a sans doute eu ce que l'Italien qui sait se moquer de lui-même avait appelé, dès les années 30, le PNF, Parti National Fasciste, per necessita familiare, par nécessité familiale. Il n'en reste pas moins vrai que, véritablement, l'État fasciste et le parti encadrent clairement la jeunesse et une bonne partie de la société. Un autre élément de cet encadrement de la société que je voudrais souligner, c'est ce que l'on appelle en italien il dopo lavoro. On pourrait traduire par l'après-travail, mais à vrai dire, le mot est resté dans la langue courante des historiens, et donc continuons à utiliser il dopo lavoro. Cet organisme n'a rien d'obligatoire, mais il attire une bonne partie des Italiens parce que, au travers du régime, il propose d'encadrer les loisirs. Et effectivement, vous avez 280 000 personnes qui adhèrent au dopo lavoro en 1926, mais ils sont 4 600 000 en 1939. Cette institution est donc chargée d'organiser les lois des Italiens, organiser des compétitions sportives, organiser des voyages, des visites de musées, des bals, des projections cinématographiques. Alors évidemment, c'est très avantageux, si j'ose dire, sur le plan social, c'est-à-dire qu'il y a un apport sur le plan culturel et de la société italienne. Mais en même temps, le dopo lavoro est une occasion de montrer les bienfaits du régime, avant la projection d'un film, de projeter des actualités à la gloire du Duce, de Mussolini. Et donc, c'est un élément aussi qui, même s'il n'est pas obligatoire, eh bien, participe à cet encadrement. D'autre part, l'autre ambition majeure du régime, c'est la création d'un homme nouveau. Je vous lis un extrait d'un document de 1930 qui a été rédigé par Carlo Scorza, qui était le fédéral, c'est-à-dire le chef du parti fasciste, en Toscane. Et voilà ce qu'il écrivait à propos justement de l'ancien Italien et du nouvel Italien. L'Italien nouveau que le fascisme veut créer ne doit rien avoir en commun avec l'Italien du passé. À l'exception du patrimoine commun, de glorieuses traditions, de coutumes et de langues, le fasciste, l'Italien de demain, doit représenter l'antithèse la plus parfaite du citoyen démolibéral, malade de tous les scepticismes, débilité par toutes les démagogies. Il faut le transformer, y compris physiquement. Cet aspect du fascisme est capital parce que il s'envisage à long terme. Et véritablement, c'est une ambition anthropologique de créer un nouvel Italien qui serait en capacité, du moins le régime l'espère-t-il, de maintenir le fascisme au pouvoir pendant longtemps. Mais il faut bien voir que créer un homme nouveau suppose qu'il y ait eu des exclus. Les homosexuels, en 1938, deviennent la cible du régime. Et je vous renvoie au film d'Ettore Scola, La journée particulière. Mais également les Juifs. Les Juifs sont touchés par des lois antisémites à l'automne 1938 qui les excluent de l'enseignement, de la culture, des médias, des forces armées. On a longtemps cru que cette législation antisémite n'avait été pas véritablement appliquée, mais il faut bien le dire, des travaux, depuis maintenant un quart de siècle, ont montré que les Juifs avaient subi véritablement une épuration. On n'a jamais songé dans l'Italie fasciste à la Shoah, mais en fait, sans le savoir, on a préparé le terrain à l'occupant nazi lorsqu'il arrivera dans la péninsule en septembre 1943. Les limites du totalitarisme sont aussi une question à poser. La présence de l'Église est sans doute un obstacle. Non pas que l'Église soit antifasciste, elle accueille même plutôt le fascisme comme un rempart efficace vis-à-vis du bolchevisme. Et le pape Pie XI a accepté de négocier avec le gouvernement italien jusqu'à la signature des accords du Latran du 11 février 1929 qui crée des liens organiques entre le Saint-Siège et l'État italien, puisque le catholicisme est religion d'État et que, par exemple, M. le curé sert d'officier d'État civil au moment des mariages. Mais il y a aussi, par contre, des points de controverse entre le Saint-Siège et le régime fasciste. J'en note trois. D'abord, à propos des associations de la jeunesse catholique, Mussolini voudrait contrôler ces associations, or l'Église refuse cette mainmise. D'autre part, le rapprochement avec l'Allemagne nazie, que nous aborderons lors de notre prochaine chronique, est peu apprécié par Pie XI, qui quitte Rome d'ailleurs au moment où Hitler arrive en mai 1938. Et également, à propos des lois raciales, qui vont à l'encontre de l'encyclique que le pape avait éditée le 14 mars 1937, Mit Brennender Sorge, en allemand, et qui condamne, à propos de l'Allemagne nazie, les théories racistes. Un dernier mot. Est-ce qu'il y a eu un véritable consensus autour du fascisme ? Or, à vrai dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est créé une espèce de mythe antifasciste où, finalement, si la société italienne avait accepté le régime, c'était parce qu'il y avait eu un appareil répressif et de propagande extrêmement développé qui avait, si j'ose dire, abruti la société italienne. L'explication s'avère beaucoup trop simpliste. L'historien Renzo De Felice, puis à sa suite Emilio Gentile, ont montré qu'il y a eu un phénomène de consensus. Mais ce consensus peut s'expliquer sur la popularité, le charisme de Mussolini, sur le sentiment d'un retour à l'ordre, sur le succès de la signature des accords du Latran avec l'Église, sur l'intégration des classes moyennes dans le système politique, sur l'encadrement social de la société italienne et puis également sur les succès que la politique extérieure du fascisme a obtenu. Par contre, il est vrai qu'il y a sans doute eu des limites au consensus, avec une imprégnation très limitée encore dans une grande partie des masses rurales de la doctrine fasciste, une certaine distance envers la radicalisation du régime à la fin des années 30. Mais c'est sans doute sur la question internationale que va véritablement se jouer la destinée du fascisme italien.